France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Gino Bartelli et Fausto Coppi, duel au sommet du cyclisme. Après la Seconde Guerre mondiale en Italie, il faut choisir son camp. On est Bartaliani ou Coppiani. Autrement dit, on supporte l'un ou l'autre des grands champions cyclistes italiens, Bartali ou Coppi. À eux deux, ils dessinent les contours de ce pays, notre cousin germain. À l'époque en Italie, le cyclisme est un sport encore plus populaire que le foot, c'est dire. Il est vrai qu'en ces années 30, 40 et 50, c'est une génération italienne dorée, avec deux champions et surtout deux styles. Gino, c'est le fervent catholique, bon vivant, paysan, symbole de l'Italie du passé. Fausto, c'est l'image de l'Italie industrialisée, de la modernité. Ce que résume l'écrivain Curzio Malaparte dans cette formule bien sentie, il y a du sang dans les veines de Gino, dans celles de Fausto, il y a de l'essence. Notre invité aujourd'hui, Pierre Carré, journaliste sportif, spécialiste de cyclisme. Il collabore avec le quotidien suisse Le Temps et il est l'auteur du livre intitulé Giro, la course la plus dure du monde dans le plus beau pays du monde. Je cite mot pour mot. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Tour de France. Cette année-là, la Grande Boucle en est à sa 31e édition. À l'époque, chaque coureur fait partie de son équipe nationale. Ce n'est pas encore la période des écuries sponsorisées par des marques. Parmi les nations fortes, on retrouve la Belgique, la France et son voisin italien, notamment. Il faut dire que les deux pays accueillent les deux plus grandes compétitions de cyclisme au monde. Le Tour, donc, et le Giro, qui veut dire Tour, d'ailleurs, en italien. En tout cas, un terrain d'affrontement parfait pour ces deux nations qui vivent une période de tension. Entre l'Italie fasciste de Mussolini qui a envahi l'Éthiopie et la France du Front populaire, il y a quelques points de divergence, c'est le moins qu'on puisse dire. Mussolini, qui a bien compris que le sport est un moyen d'unifier le pays, de divertir les foules et de faire la promotion du fascisme, a mis à la tête des plus importantes fédérations sportives des généraux. Le ton est donné. Pour le foot, c'est un succès total, avec une Coupe du Monde 1934 organisée au pays et remportée avec l'aide d'un arbitrage, disons, maison. Alors en 1937, pour le cyclisme, Mussolini verrait bien l'un de ses compatriotes remporter le Tour. Ça tombe bien, il y a une pépite qui vient de gagner deux Giro coup sur coup et qui pourrait réaliser le doublé Tour-Giro, son nom, Gino Bartali. Problème, il n'est pas très motivé à l'idée d'enchaîner les deux grandes boucles. Il n'est pas entraîné pour. Mais sous Mussolini, on ne discute pas les ordres. Alors, Bartali cède, direction la France. Au terme de la sixième étape, il s'empare du maillot jaune. Mais le fascisme et la tactique de course cycliste ne font pas bon ménage. Le coureur italien raconte un épisode du Tour dans le documentaire Histoire du Tour, Gino Bartali, diffusé en 2000 sur la chaîne L'Équipe.
En 1937, Mussolini m'a envoyé au Tour parce qu'il en voulait à la France. Les Français avaient peur du fascisme et moi, j'étais là pour la propagande. J'ai pris le maillot jaune et entre Grenoble et Briançon, alors que j'étais échappé, Orlandi et Ambrosini, des émissaires de la Fédération, sont venus à ma hauteur et m'ont hurlé. Arrête-toi maintenant. Et pourquoi m'arrêter? Tu dois attendre tes camarades qui sont attardés. Mais j'ai le maillot jaune, vous vous rendez compte? C'était l'époque du fascisme, vous comprenez? C'est eux qui commandaient. Alors je me suis arrêté. Le peloton s'est reformé et là tous mes camarades ont été pris dans une chute collective.
Après cette chute, les émissaires fascistes ordonnent à Gino Bartali de reprendre les devants. Dont acte. Mais peu après dans la course, l'un de ses coéquipiers chute de nouveau dans une descente et l'entraîne avec lui dans un torrent. Bartali est à terre, il met du temps avant de reprendre ses esprits et de remonter en selle. Blessé et souffrant d'une bronchite, il finit par abandonner le Tour à Marseille. En réalité, c'est encore Mussolini qui insiste pour que Bartali stoppe l'aventure. Parce qu'il préfère un abandon que le mauvais classement d'un Italien. Gino rentre donc en Italie, ou un autre jeune coureur commence une carrière cycliste prometteuse en remportant sa première course, un certain Fausto Coppi. Le jeune Coppi vient d'une famille modeste du nord de l'Italie. Dès l'adolescence, il enfourche un vélo, non pas pour le plaisir ou le sport, mais pour effectuer des livraisons pour le compte de la boucherie où il est employé. La légende dit qu'il aurait croisé de courses cyclistes amateurs lors de son travail, qu'il aurait suivi les coureurs avant de les dépasser. L'entraîneur l'aurait alors pris sous son aile. Bartali, de 5 ans, son aîné, lui vient de Toscane, et plus précisément de Florence. Un père ouvrier socialiste et une mère très catholique, sorte de synthèse de la société italienne de l'époque. Né avec la Première Guerre mondiale, Bartali a grandi avec le fascisme et l'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922. À partir de 13 ans, il devient réparateur de bicyclettes, moyen de transport publicité par les Italiens. Son père, qui ne voulait pas qu'il se lance dans une carrière cycliste, finit par céder, pour le plus grand bonheur du club du village, où il devient vite célèbre. Et il enchaîne des victoires, et il entame une ascension fulgurante. En 1936, c'est la consécration. Bartali remporte son premier Giro. Quelques jours plus tard, son frère cadet, Giulio, lui aussi coureur cycliste, meurt d'une chute lors d'une course amateur. Gino est dévasté. Il songe à tout arrêter. Mais il reprend le cyclisme, avec le même succès qu'auparavant. En 1937, il gagne donc le Giro, mais abandonne dans le Tour de France. En 1938, c'est encore un ordre du pouvoir fasciste qui décide de son programme sportif. On lui déconseille fortement de participer au Giro pour se consacrer entièrement au Tour de France. Le sport au service de la propagande fasciste en France, pays rival, rivalité cycliste et footballistique. Car en cette même année, la France accueille la Coupe du Monde au mois de juin. Et c'est l'Italie qui remporte la compétition au Stade de Colombes le 19 juin.
Meazza, le capitaine de l'équipe italienne, reçoit des mains du président de la République la Coupe du Monde, qui retournera en Italie où elle était déjà depuis 4 ans, et où elle restera encore 4 ans jusqu'en 42, date du prochain rassemblement mondial des footballeurs de toute nationalité et de toute race.
Une fois n'est pas coutume, la squadra azzurra, habillée en noir, fait le salut fasciste sous les sifflets du public français. L'Italie remporte donc sa deuxième Coupe du Monde de football. Mussolini est ravi, ne reste plus qu'à gagner le Tour de France, et alors là, l'humiliation sera complète pour les Français. Quelques jours après la Coupe du Monde, Gino Bartali arrive à son tour en France. Il est tout frais, vu qu'il a été forcé de faire l'impasse sur le Giro. Stratégie gagnante. Il domine le Tour, notamment dans les étapes alpines. Lors de l'ascension du col d'Isoard, il distance tous ses poursuivants et gagne à Briançon avec 18 minutes d'avance sur ses adversaires. Les tifosi sont fous de joie et célèbrent leur nouveau héros. Le général Antonelli, président de la Fédération italienne de cyclisme, est lui aussi aux anges. Mais il lance aux supporters italiens qui s'approchent de Bartali « N'y touchez pas, c'est un dieu !» Le dieu italien ne quittera plus le maillot jaune jusqu'à Paris. Commentaire à l'arrivée dans le vélodrome du Parc des Princes.
Mes chers auditeurs, notre micro se trouve ce soir au Parc des Princes, au moment où, dans quelques instants, va se terminer la gigantesque épreuve du 32e Tour de France cycliste. Et maintenant, voici tout le peloton qui pénètre sur la piste du Parc des Princes. Et dans ce peloton, nous reconnaissons en 4e ou 5e position le maillot jaune de Bartali. Voici les Français, voici Jaminet, voici les Bleuets, les Cadets, tous pénètrent en ce moment, tous ceux que nous avons suivis, que nous avons vus, avec qui nous avons souffert passionnément pendant près d'un mois, que nous avons vus dans les Pyrénées, dans les Alpes, sur les routes poudreuses, pleines de soleil, pleines d'embûches, pleines de difficultés. Voici tous les géants de la route, comme on se plaît à les appeler, le Tour de France de 1928 est arrivé.
À Paris, Gino Bartali remporte son premier Tour de France. Mais il refuse de faire le salut fasciste. Toujours en 1938, Fausto Coppi, lui, est pris en charge par Biagio Cavana, un masseur aveugle qui s'occupe de grands sportifs. Si Bartali est plutôt trapu, Coppi est, lui, svelte. 67 kilos pour 1,77 m. En 1939, Bartali ne peut pas participer au Tour de France. Coppi en profite pour frapper un grand coup lors du Tour du Piémont, où il monte sur la troisième place du podium. Gino Bartali convainc son directeur sportif d'engager ce jeune coureur prometteur dans son équipe. Lors du Giro 1940, Coppi vient pour aider Bartali pendant la course. Autrement dit, ils sont coéquipiers. Eh bien, c'est l'inverse qui va se passer après une chute de Bartali lors de la deuxième étape. Alors qu'il évite un chien dans la descente du col de la Scofera, il perd 5 minutes sur le vainqueur d'étape et doit passer une nuit à l'hôpital. Victime d'une hémorragie interne au genou, le médecin lui conseille d'abandonner la course. Mais son directeur sportif, Everardo Pavesi, insiste pour qu'il aide le jeune Fausto Coppi, qui s'empare du maillot rose. À l'arrivée, le Héron, c'est son surnom, remporte le Giro pour sa toute première participation. Dans la fabuleuse histoire du cyclisme, le journaliste Pierre Chani le décrit ainsi.
La morphologie de Fausto Coppi s'éloigne on ne peut plus des canons de la plastique. Il présente des jambes démesurément longues, un buste court, une poitrine en forme de tonnelet, des épaules étriquées, des mollets étiques. Ses os paraissent trop lourds, qui saillent sous sa peau. Des os fragiles comme du cristal, qui casseront souvent, trop souvent. Cette morphologie le sert merveilleusement. Dans la vie quotidienne, il fait penser à un échassier, mais il approche de la perfection du style sur sa bicyclette. Au paroxysme de l'effort, son buste reste bien en ligne, ses jambes tournent avec onctuosité et ses traits figés dans l'indifférence trahissent moins l'effort que l'ennui.
Au lendemain de l'arrivée du Giro 1940, le 10 juin, Mussolini déclare la guerre à la France, déjà à genoux, après l'offensive allemande. Évidemment, avec le conflit, il y a de moins en moins de courses cyclistes. Bartali se marie en novembre à Florence, cérémonie célébrée par l'un de ses proches, le cardinal Elia Dalla Costa, fervent antifasciste, à la tête du grand réseau de résistance de Toscane et qui sera nommé juste parmi les nations. Gino Lopieux profite ensuite de son voyage de noces à Rome pour rencontrer le pape Pie XII. Le 7 novembre 1942, Vélodrome de Milan. Fausto Coppi démontre l'étendue de son talent en battant le record mondial de l'heure. Il parcourt 45 km et 971 mètres, améliorant la marque du français Maurice Archambault de 31 mètres. Coppi a 23 ans et une carrière prometteuse devant lui. Mais l'armée cesse de lui accorder des permissions et l'envoie dans un régiment en Tunisie. Très vite capturé par les Anglais, il devient prisonnier de guerre en avril 1943 et contracte la malaria. Il rentrera très affaibli en Italie après la fin de la guerre. De son côté, Gino Bartali est toujours en Italie où un armistice a été signé avec les alliés anglo-américains qui débarquent en Sicile en juillet 1943. En représailles, l'Allemagne nazie occupe la zone nord du pays et procède à la rafle du ghetto de Rome le 16 octobre. C'est dans ce contexte que Bartali intègre un réseau de résistance organisé par son ami le cardinal Elia Dalla Costa. Selon de nombreuses sources, le cycliste italien aurait profité de sa célébrité pour transporter de nombreux faux papiers et de l'argent cachés à l'intérieur du cadre de son vélo, participant ainsi au sauvetage de plus de 800 juifs. À l'automne 1943, il parcourt des centaines de kilomètres à travers le nord de l'Italie, passant tous les checkpoints sans problème. Après tout, c'est normal que le vainqueur du Tour de France s'entraîne. Il est souvent accueilli chaleureusement, et personne ne le soupçonne. La grandeur du bonhomme, c'est qu'il n'a jamais parlé de cet acte héroïque tout au long de son existence, comme l'explique Alberto Toscano, qui a écrit l'ouvrage « Un vélo contre la barbarie ». Extrait d'un numéro de l'émission « Une histoire particulière, les deux échappés de la petite reine » diffusé sur France Culture.
On a le témoignage des bonnes sœurs qui étaient assises, et on a le témoignage de personnes qui l'ont vu dans cet itinéraire, mais on n'a pas de repère exact combien de fois, quel était son itinéraire exact, parce que lui, il n'a jamais dit un mot sur ça. Et lui a toujours dit la phrase, il y a des médailles qu'on obtient dans cette vie, et pour lui c'était la médaille sportive, il voulait gagner. C'était un coureur, un champion sportif extrêmement, extrêmement déterminé pour gagner, et des médailles qu'on aura dans une autre vie.
28 avril 1945, l'Italie est libérée. Mussolini est pendu, on tourne la page du fascisme. Le pays est ruiné. Et il faut maintenant laver la honte d'avoir été du côté de l'Allemagne nazie. Alors, quoi de mieux pour se changer les idées que le vélo? En 1946, le Giro reprend. Et désormais, Gino Bartali et Fausto Coppi sont dans deux équipes adverses. Bartali revêt la couleur verte de l'équipe Legnano et Coppi la tunique blanche de Bianchi. C'est un duel très serré qui anime cette course. Et au final, c'est le vieux, autrement dit Bartali, qui prend le maillot rose et qui le garde jusqu'à Milan. Coppi, deuxième, n'a que 47 secondes de retard sur lui au terme de plus de 65 heures de course. L'opposition Bartali-Coppi a tenu toutes ses promesses. Alors, rendez-vous est pris pour l'année prochaine, le Tour de France n'ayant pas lieu en cette année 46.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più. Questo giorno appiccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, 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 ratarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le duel au sommet, Coppi Bartali.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Coppi e Bartali riagguantano Ronconi. Sulla pista del velodromo le quotazioni velocistiche dei tre sono rispettate. Primo Coppi, secondo Bartali, terzo Ronconi. Coppi ha ottenuto la vittoria di tappa. Bartali qualcosa di più, la maglia rosa.
Bon, on ne traduit pas, la langue italienne est trop belle. Giro 1947, bis repetita pour le duel Bartali-Coppi. Et la rivalité s'intensifie. Un équipier de Coppi tente même de corrompre Bartali dès la première étape, pour qu'il laisse Coppi gagner. Mais Gino le pieux est droit dans ses bottes. Pas de magouille, pas de dopage. En revanche, il fouille dans les poubelles de la chambre de Coppi pour voir quel produit il va utiliser lors de l'étape. Car Fausto en pince pour les stimulants, nous y reviendrons. Résultat, à Milan, le jeune Coppi triomphe devant Bartali avec 1 minute et 43 secondes d'avance. Le Giro passionne les Italiens qui commencent à choisir leur camp. L'écrivain Claudio Malaparte écrit en français dans la revue Sport Digeste ce superbe portrait des deux hommes avant le Tour de France.
Bartali est le champion d'un monde déjà mort, le survivant d'une civilisation que la guerre a tuée. Il représente ce romantisme inquiet et inquiétant qui a atteint son faîte entre les deux guerres. Il continue dans le monde moderne l'esprit héroïque de la vieille Europe. Coppi, lui, est le champion du monde nouveau, enfanté par la guerre et par la libération. Il représente l'esprit rationnel, scientifique, le cynisme, l'ironie, le scepticisme de la nouvelle Europe, le manque d'imagination des nouvelles générations, leur credo matérialiste. Fausto est un ouvrier, Gino un paysan. L'humain est plus développé chez Bartali que chez Coppi. Bartali est un homme, Coppi un robot. Il y a du sang dans les veines de Gino. Dans celle de Fausto, il y a de l'essence.
Le sang et l'essence ne participent pas au Tour de France 47. Bartali se voit bloqué par son équipe et Coppi préfère les courses sur piste. Quant au Giro 48, il ne tient pas ses promesses. Coppi abandonne et Bartali termine 8e. Mais ce que les Italiens espèrent tous, c'est de voir les deux coureurs dans la même équipe sur les routes de France. Mais Coppi refuse d'y aller. La présence de Bartali suffit. Il est inutile que deux champions d'un même pays luttent entre eux sur terre étrangère, dit-il. Alors, Bartali s'élance sans Coppi sur les routes du Tour. Le 14 juillet 1948, le leader du parti communiste italien Palmieri Togliatti est victime d'une tentative d'assassinat. Peu après l'attentat, le président du Conseil démocrate chrétien, Achille De Gasperi, qui connaît personnellement Bartali, l'appelle et lui explique qu'il serait bienvenu de réaliser un exploit sur le Tour de France. Le lendemain, lors de l'étape du 15 juillet, Bartali gagne à Briançon et reprend le maillot jaune à Louison Bobet, alors que l'Italie est à feu et à sang. Des grèves générales sont déclarées et des affrontements ont lieu dans les rues. La légende dit que cette victoire de Bartali au Tour de France a permis de calmer les esprits et d'apporter la concorde nationale. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois rétabli, Togliatti, le leader communiste, remerciera Bartali, le héros italien, qui remporte son deuxième Tour de France après celui de 1938. 10 ans d'écart entre ces deux sacres. Une performance exceptionnelle, jamais égalée.
Dernier tour, Corrieri va gagner. Mais voici le peloton, la foule, les cris, l'enthousiasme, les coureurs, le maillot jaune. Gino Bartali a gagné le Tour de France pour la deuxième fois. Et Lino Renault lui offre fleurs et maillots jaunes.
Décembre 1948, les Italiens découvrent au cinéma les nouvelles aventures de Toto, star comique du cinéma transalpin. Toto, c'est Buster Keaton à la sauce napolitaine. Le film s'intitule Toto al Giro d'Italia, Toto autour d'Italie. Le scénario de cette comédie est très simple. Le professeur Casamandrei, incarné par Toto, tombe amoureux de Doriana, la Miss Italie. Pour plaisanter, elle lui dit qu'elle l'épousera s'il gagne le Giro. Le professeur passe un pacte avec le diable. En donnant son âme, il remportera le Giro. Il gagne les premières courses en battant Coppi et Bartali. Les vrais, car les deux cyclistes se prêtent au jeu de la comédie. Ils se disputent et renforcent ainsi la légende de leur rivalité. Dans cet extrait que vous allez entendre en version originale, un petit peloton de cyclistes arrêtés fume des cigares. Scène improbable, interrompue par un entraîneur furieux qui leur demande de prendre exemple sur Fausto Coppi. Et c'est à ce moment précis que le héron débarque au milieu des coureurs cyclistes avec un cigare encore plus gros que les autres.
Eh, ma che fai? Sono impazziti? Fumate? Va via questa robaccia! Ma che provare, vergognatevi! Prendete esempio da Coppi! Lui non fuma mai, ecco perché vince sempre, l'unico atleta che abbia un po' di coscienza! Imparate da lui! Anche tu, Fausto, figlio mio.
Le 4 mai 1949, un avion transportant toute l'équipe du Torino s'écrase. La catastrophe de Superga émeut tout le pays. 4 fois champion d'Italie, c'est l'équipe la plus forte de l'époque. Dino Buzzati, célèbre écrivain, auteur du Désert des Tartares, écrit un article intitulé « Caduti a Superga », autrement dit « Tombé à Superga ». Quelques jours plus tard, l'écrivain embarque dans un bateau en direction de la Sicile pour suivre le Giro de 1949, l'événement de l'autre sport favori des Italiens avec le football, le cyclisme. Coppi portera d'ailleurs sur son maillot l'écusson du Torino en hommage aux victimes. Dino Buzzati, qui n'est pas spécialiste de cyclisme, livre une série d'articles qui s'intéressent aux à côté de la course, aux spectateurs, aux paysages magnifiques, traversés en Sicile et en Calabre notamment. Il décrit les Italiens massés sur les routes dans les villages qui n'ont jamais vu une telle animation. C'est la caravane de la modernité qui traverse le sud pauvre de la péninsule. Mais Buzzati va ajouter à la légende du duel mythique entre Bartali et Coppi en écrivant ceci. Et voici le titre de l'article. Dans les Alpes, Bartali cède devant Coppi, trop fort pour lui.
La victoire vint se ranger aux côtés de Coppi dès les premières minutes du duel. Il n'y eut pas l'ombre d'un doute chez ceux qui le virent. dans ces maudites montées. Son coup de pédale était d'une puissance irrésistible. Qui aurait pu l'arrêter? De temps à autre, pour soulager les souffrances que lui infligeait la selle, il se soulevait sur ses pédales. On aurait dit, tant il était léger, qu'il voulait étirer ses membres par excès de vitalité, comme fait un athlète qui s'éveille d'un long sommeil. C'est un vaincu. Bartali, aujourd'hui, pour la première fois. Voilà qui nous remplit d'amertume, car cela nous rappelle intensément notre sort commun à tous. Aujourd'hui, pour la première fois, Bartali a compris qu'il était arrivé à son crépuscule. Et pour la première fois, il a souri.
Cette année-là, Fausto copie de Mino Giro de la tête et des épaules, notamment dans l'antépénultième étape où il livre une échappée en solitaire de 192 km qui lui permet de prendre plus de 11 minutes d'avance sur Gino Bartali. Il porte le maillot rose qu'il garde jusqu'à l'arrivée à Monza. C'est le Campionissimo, le champion des champions, que tous les Français veulent découvrir maintenant sur les routes du Tour. Mais Coppi ne veut pas y participer si Bartali y va aussi. Rappelons une nouvelle fois que la course se dispute par équipe nationale. L'entraîneur Alfredo Binda, légende vivante du cyclisme italien, parvient tout de même à accorder les deux champions pour les aligner sur le Tour.
Ce 30 juin 1949, départ du 36e Tour de France cycliste, la plus grande épreuve sportive du monde.
Petite histoire du Tour de France.
C'est un doublé historique pour Fausto Coppi qui réalise une performance exceptionnelle. Il faut dire que le Campionissimo ne laisse rien au hasard. Il contrôle ce qu'il mange, mesure son sommeil, fractionne ses entraînements, s'intéresse au textile qu'il porte, au cadre de son vélo et à son dérailleur. Il a fait entrer le cyclisme dans une nouvelle ère. Il n'hésite pas non plus à arroser d'autres coureurs du peloton en espèces sonnantes et trébuchantes. Et surtout, Coppi, c'est une utilisation scientifique de la bomba. Dans une interview de 1952, il explique qu'il la consomme, celle qu'on appelle la bomba.
Fausto, tous les coureurs portent une petite sacoche à l'arrière du short. Que contient-elle?
La bombe. La bombe doit être une paire de jambes de rechange. Elle est composée d'ingrédients secrets. Les plus importants sont l'amphétamine et la certitude que la bombe a fonctionné.
Une autre époque. D'ailleurs, nous sommes le 29 juin 1951. Quelques jours avant le Tour de France, Coppi termine 4e du Giro, Bartali 10e. Mauvais cru pour le duel de champions. Mais la déception n'est rien à côté de l'épreuve qui attend Coppi. Ce jour-là, Cercei Coppi, son frère cadet, cycliste lui aussi, meurt des suites d'une chute à vélo. Un drame qui, forcément, le rapproche de Bartali, lui qui, 15 ans plus tôt, a perdu son frère cadet, cycliste également suite à une chute. Tous les deux, après cette annonce, ont songé à arrêter. Mais le vélo est plus fort que la mort. Coppi prend le départ du Tour de France et déclare « J'ai décidé de participer à l'épreuve parce que cela me procurera une diversion morale, parce que c'est mon devoir de coureur. » Mais 1951 n'est décidément pas une bonne année pour les deux Italiens. Coppi finit 10e, Bartali 4e. Les mêmes places que pour le Giro, mais on inverse les rôles. En mai 52, Coppi dispose d'un nouveau coéquipier pour l'aider dans la conquête d'un 4e Giro. Il est français et il s'appelle Raphaël Geminiani, qui en plus d'aider Coppi à ravir le maillot rose, finit premier du classement de la montagne. Deux mois plus tard, Coppi, qui ne voulait toujours pas faire le Tour de France en compagnie de Bartali, remporte l'épreuve et s'offre un deuxième doublé Giro Grande Boucle.
À Valorbe, Bartali chute lourdement avec Diedrich. Les domestiques de la Squadra se précipitent et le relèvent. Bartali souffre, mais il remontera en selle et repartira. En tête, Robic démarre. Il lâche le peloton. Mais Fausto Coppi part à sa poursuite, le rejoint, le passe irrésistiblement. Coppi est seul et termine premier à l'Alpe d'Huez, où il prend pour la première fois le maillot jaune.
Le 9 février 1955, Gino Bartali, l'homme de fer, annonce sa retraite cycliste. À 40 ans, il achève une carrière au palmarès impressionnant, qui aurait pu être encore plus élogieux si sa carrière n'avait pas été interrompue par la guerre. Et cela sonne la fin de la rivalité sportive avec Fausto Coppi. Mais c'est sur un tout autre terrain que l'on va comparer les deux champions italiens, celui des mœurs. Bartali, surnommé le Pieux, est une figure vantée par la démocratie chrétienne et le pape. Marié, père de famille, il va à la messe le dimanche et a même aménagé une chapelle chez lui. Fausto, lui, est aussi catholique, comme la plupart des Italiens. Mais il va commettre la faute très mal vue dans l'Italie conservatrice, l'adultère. Et une nouvelle vie avec celle qu'un journaliste français va qualifier de dame blanche. Cette liaison, dont naîtra un enfant, va lui apporter de nombreux ennuis administratifs et judiciaires. Mais cela va aussi semer le désamour chez les tifosi, jusqu'au pape Pie XII, qui refuse de bénir le Giro en 1955, déclarant « Il y a un pécheur parmi vous ». Dans ce contexte, Bartali est érigé en modèle absolu de vertu. Ce choix, Coppi ou Bartali, c'est une manière d'illustrer les tensions qui animent la société italienne entre conservatisme et modernité. Et il se trouve que les deux hommes jouent sur cette rivalité et n'hésitent pas à la mettre en scène, notamment dans une publicité pour du bouillon. Oui, la soupe est bonne pour les deux cyclistes quand il s'agit de jouer la dispute. En 1959, Bartali, devenu entraîneur, embauche Coppi dans son équipe, c'est dire leur niveau de complicité. La même année, il se retrouve sur un plateau télé dans l'émission de variété Il Musichiere. Le costume est de rigueur. Coppi et Bartali font la course à pied, pour une fois, oui, sur le plateau pour aller faire sonner une cloche. Alors, qui est le plus grand coureur, demande l'animateur. Coppi, répond Bartali. Bartali, répond Coppi. Échange d'amabilité entre les deux champions et place à la chanson dans laquelle Bartali moque gentiment Coppi pour son usage de produits dopants.
D'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Giri d'Italia lui si li vinceva, ma le prendeva, oh se le prendeva. Fummo rivali però cordialmente, fummo nemici ma sempre realmente. L'antagonismo che ci divideva, come piaceva, come piaceva.
Questa è un'altra cosa.
Quelques semaines plus tard, Fausto Coppi est invité par Raphaël Gemignani à se rendre en Volta, l'ancien nom du Burkina Faso, pour un critérium cycliste, du tourisme et des parties de chasse. Malheureusement, les deux hommes contractent la malaria. Gemignani, soigné en France, en sort sans problème et vit jusqu'à 99 ans. Coppi, lui, est victime d'une erreur de diagnostic et de l'incompétence de ses médecins. Il est emporté en 9 jours. En résumé, Bartali et Coppi étaient plus similaires qu'on a voulu le faire croire. Tous deux étaient d'origine modeste. Tous deux étaient catholiques, votaient pour la démocratie chrétienne et tous les deux ont perdu leur frère dans les mêmes circonstances et ressenti la même peine. En vérité, ils ont joué le jeu de la rivalité parce que ça leur profitait médiatiquement et financièrement, à une époque où le vélo était le sport roi en Italie. Mais avec le miracle économique italien et l'urbanisation, le football supplante petit à petit le cyclisme et les Italiens troquent le vélo contre la Vespa. Pour Philippe Bordas, journaliste et écrivain, Coppi a achevé un cycle dans ce sport. Il écrit dans un incipit de Forcené, publié en 2008, « Le cyclisme, dans sa perfection, est abouti. Coppi achève le cyclisme comme Joyce et Faulkner achèvent le roman dans sa forme minérale complexe. Après quoi viennent les répétitions, les épigones, la dilution. » Fin de citation. Certes, il y a eu les victoires dans le Tour de France des Italiens Pantani en 98 et Nibali en 2014. Mais ce pays attend toujours l'héritier. Celui qui pourrait gagner des Giro, et surtout plusieurs, et non pas un seul Tour de France de temps en temps, tous attendent une copie de Coppi.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le duel Bartali-Coppi, dont nous parlons avec notre invité Pierre Carré. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste sportif spécialiste de cyclisme, vous collaborez avec le quotidien suisse Le Temps et vous êtes l'auteur du livre Giro, la course la plus dure du monde dans le plus beau pays du monde. Bravo pour le plus beau pays du monde. Vous le pensez aussi?
C'est une formule qu'a développée l'organisateur lui-même du Tour d'Italie, parce qu'il sait que la plus grande course, c'est le Tour de France, donc il faut dire quelque chose d'autre à propos du Giro. Et en effet, le Giro exprime... c'est pas une course cycliste, le Giro. C'est au-delà du vélo, c'est une fresque comme celle de Michel-Ange, c'est un autre plafond de la chapelle Sixtine, le paradis, l'enfer, le doigt de Dieu, et ça raconte quelque chose de très profond, très existentiel, très métaphysique. C'est du vélo... et c'est autre chose.
Oui, c'est pour ça qu'on a choisi le sujet. Pas que sportif. On va y revenir. Vous avez une préférence, vous, parce qu'on aime bien dans les sports avoir des duels. On est, je sais pas, on est Borg ou McEnroe, on est, oui. On est Ronaldo ou Messi. Vous êtes Coppi ou Bartali, vous ? Une préférence ?
Allez. Je pense que j'aurais aimé rencontrer Coppi. Profondément. Ouais. Coppi, c'est le Christ tombé de sa croix. Le corps est très étrange, il a été pris en photo plusieurs fois. Il a en effet cette cage thoracique très protubérante et il est émacié. C'est quelqu'un qui ne respire pas la santé. D'ailleurs, il a plein de... Vous savez, son état est très dégradé. Il a contracté la malaria une première fois. Il en a réchappé pendant la guerre. Il avait aussi des fragilités d'estomac qui l'obligeaient à manger de manière très précautionneuse. On dit qu'il est un des précurseurs de l'alimentation moderne dans le sport. Il met sa viande avec du jus de citron une nuit entière dans du papier aluminium au frais pour l'attendrir, parce que c'est quelqu'un qui en fait ne cherchait pas uniquement la performance mais tout simplement à vivre en bonne santé. Et c'est un personnage qui a beaucoup souffert dans sa chair et qui portait en lui une part de tragique très importante.
Les deux hommes s'entendaient bien ou c'est une vraie guerre entre eux ou c'est une construction médiatique? Là je reprends l'exemple de Borg McEnroe qui en fait sont encore les meilleurs copains du monde.
Oui, alors c'est vrai qu'on les a retrouvés en train de faire du covoiturage, par exemple, pour se rendre sur des compétitions. Vous savez, leur relation a beaucoup alterné, parce qu'au bout d'un moment, vous finissez par vous ajuster au rôle qu'on attend de vous, ou que vous pensez qu'on attend de vous. Mmh. Et donc, ils se sont en effet parfois battus comme des chiffonniers. Il y a des histoires assez amusantes dans leur relation. Et puis elle a évolué, et parfois ils se méprisaient, ils se désignaient par Questo, là, celui-là. Ils prononçaient même pas le nom. Et on ne disait pas, Coppi ne disait pas Bartali, Bartali ne disait pas Coppi, c'était Questo. Et puis ils ont compris quand même que dans les duels, c'est 1 plus 1 égale 1. La force, leur force...
Ils sont italiens tous les deux en plus.
Oui, ils sont italiens, ils sont très proches pour beaucoup de choses. Mais disons qu'ils avaient compris tout l'intérêt qu'ils avaient à être enchaînés l'un à l'autre.
Ça rappelle un peu, il y a un parallèle, il vaut ce qu'il vaut, mais bon, moi ça me rappelle quand même Poulidor, Anquetil. Anquetil ressemblerait plutôt à Coppi, hein, et Poulidor à Bartali.
Oui, complètement, c'est Anquetil, Poulidor avec 10 ans d'avance et dans un autre pays, avec là aussi la même partition, le rat des villes, le rat des champs, l'homme plutôt de gauche. Alors on a imputé à Coppi des sympathies communistes. Hein. D'ailleurs, le parti communiste italien a osé faire croire qu'il serait candidat aux élections générales, ce qui était évidemment complètement faux. D'ailleurs, la seule fois où Coppi s'est prononcé politiquement, il a signé une lettre appelant à voter pour la démocratie chrétienne, comme Bartali. Mais Bartali, lui, a choisi d'être instrumentalisé par la démocratie chrétienne, là où Coppi s'est dit, bon, écoutez, moi je suis pas spécialement de gauche, mais si vous voulez que je joue ce rôle-là, il n'y a pas de problème. C'est pareil pour Anquetil Poulidor, et Anquetil dont on a dit qu'il était gaulliste, Poulidor dont on a expliqué qu'il était communiste, là aussi ça se discute profondément, mais en tout cas, il y a une réalité, Fabrice, c'est que les deux moitiés de l'Italie se sont identifiées l'une dans Coppi, l'autre dans Bartali, de même qu'il y a eu une France Coppi, une France Anquetil, pardon, et une autre Poulidor.
Alors c'est quoi ces deux Italies à votre avis? On l'a dit un peu dans le récit, mais qu'est-ce que vous en pensez?
On a le Nord et le Sud. De toute façon, c'est un pays qui a toujours été coupé et certains historiens estiment que ce qui a suturé l'Italie, ce qui a procédé à son unité nationale, c'est d'une part la gastronomie et d'autre part le cyclisme. Oui, parce que jusqu'à présent, le Nord, hein, le Nord dans lequel d'ailleurs a été inventé le cyclisme, dans un triangle Gênes, Turin et Milan, regardé avec une condescendance mais monstrueuse, le Sud qui était sous-développé, qui n'avait pas de route, de chemin de fer, etc. D'ailleurs, il faut bien dire que c'est sous Mussolini que le Giro va descendre jusqu'au Sud et jusqu'en Sicile, c'est-à-dire que le vélo achève la construction italienne. Garibaldi commence le boulot et le Giro et le cyclisme terminent. Alors on a le Nord et on a le Sud. On a finalement les paysans au Sud et les ouvriers au Nord. C'est la partition glacique.
Dans les gros traits, c'est ça.
Voilà. Et ben forcément, les gens du Sud, ils vont s'identifier à Bartali, alors même qu'il est toscan, il est florentin, et qu'il n'est pas du tout paysan, il est mécanicien. Et puis, disons que les gens de la ville vont peut-être se retrouver dans Coppi, l'élégant, l'homme qui a des tenues impeccables, réalisées par des tailleurs milanais, qui se déplace dans des très belles voitures, et puis qui a une maîtresse, c'est vrai, la Dame Blanche.
Alors vous dites que le cyclisme a cimenté les Italiens, mais et le foot dans tout ça, parce que quand même, je rappelle que l'Italie est avec le Brésil et l'Allemagne, d'un point de vue historique, la plus grande nation de football au monde, elles sont trois, hein, Brésil, Allemagne, Italie. Ah oui. Ça va mieux, moins bien maintenant, mais c'est ça quand même. Hein.
Oui, mais alors au moment de notre histoire, le foot n'est pas grand-chose en Italie. C'est tout à fait étonnant de s'en rendre compte. D'ailleurs, il en va de même en France. Le sport numéro un dans ces deux pays va être le vélo pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution, jusqu'aux 30 Glorieuses en quelque sorte, mm-hmm. jusqu'à la fin des années 60. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les unes ou les couvertures des illustrés de l'époque. On a vélo, 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 de temps en temps du foot, vélo, vélo, boxe, vélo, vélo. Donc, aussi bien en Italie qu'en France, on est encore dans une époque très rurale, et donc le cyclisme est l'expression des paysans, c'est la force, c'est la charrue quelque part.
France Inter. Affaires sensibles.
Pierre Carré, vous avez noté qu'on a employé le conditionnel. Bartali aurait aidé à sauver des juifs pendant la guerre, parce que vous avez mené votre enquête. Ce ne serait pas vraiment le cas, ou ça reste à prouver?
Oui, j'ai écrit un article l'année dernière dans le journal Le Monde à propos de cette histoire très sensible. Disons que c'est un canular qui a mal tourné et qui est allé beaucoup trop loin, puisque le mémorial Yad Vashem a attribué à Gino Bartali le titre posthume de « Juste parmi les nations ».
Et donc officiel.
Et voilà, donc c'est officiel. Le problème, c'est que ce mémorial n'est pas vraiment composé d'historiens. Si vous voulez, il y a une partie scientifique, en effet, mais il existe une autre entité qui est une commission qui s'apparenterait davantage, si vous voulez, à un comité d'attribution de la Légion d'honneur, ou bien au Vatican, une commission qui viendrait décider si vous êtes un saint de l'Église ou pas. Donc, si vous voulez, c'est avant tout un titre symbolique et politique. L'histoire est la suivante. Au début des années 2000, après la mort de Gino Bartali, une historienne de l'art, de la région de Florence, se dit, mais il y a quand même des petites rumeurs sur une éventuelle intercession extraordinaire de Bartali pendant la guerre. Et c'est vrai qu'il y avait des rumeurs autour de Florence et d'Assise aussi, du côté de chez Saint-François d'Assise. Oui. Tout simplement parce que 15 ans plus tôt, au milieu des années 80, un téléfilm avait été diffusé sur la RAI qui racontait l'histoire, histoire vraie, d'un homme à bicyclette qui transportait des faux papiers pour sauver des juifs. Or, au dernier moment, le réalisateur de ce téléfilm a choisi de changer le cycliste. C'était plus le curé qui était le personnage de la véritable histoire, c'était Bartali, pour si vous voulez, solidifier le récit. Or, Bartali, évidemment, s'en est ému à dire, mais c'est n'importe quoi, moi j'ai jamais fait ça. Et le curé, qui était lui le véritable cycliste, a dit, mais enfin, vous m'avez remplacé par Bartali, vous êtes fou. Or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un phénomène tout à fait fascinant de recréation du souvenir, ou de création du souvenir. C'est-à-dire que des religieuses qui avaient 80 ou 90 ans se sont dit, mais maintenant que j'y pense, une de mes sœurs m'a dit que peut-être, oui, mais c'est vrai, elle avait croisé... voilà. Et donc, par oui-dire, il n'y a quasiment aucun témoignage direct, un petit dossier a été constitué à l'époque et envoyé au mémorial Yad Vashem. Moi, je l'ai étudié, ce dossier. Ils me l'ont envoyé, je l'ai regardé, et en fait, j'étais stupéfait par la faiblesse. Je tournais les pages, il n'y a rien qui tient. Jusqu'à nous dire qu'en fait, ces documents étaient transportés, alors soit roulés dans les tubes du cadre, ce qui est évidemment quasiment impossible, soit placé sous la selle. Alors pour cela, il aurait fallu enlever le cuir, il aurait fallu enlever les rivets, etc. Comment voulez-vous mettre des papiers sous une selle? Enfin, ça ne marche pas, cette histoire. On aurait dû s'en arrêter là. Mais si vous voulez, Bartali aura joué le rôle d'ambassadeur de la démocratie chrétienne de son vivant. Il est encore une figure qui est exploitée après sa mort. Il était d'ailleurs contrarié lorsque ces rumeurs sont apparues. Et puis sa femme, son fils, était aussi choqué. On dit, mais ça n'est jamais arrivé, cette histoire-là.
Alors, vous connaissez l'aphorisme, hein, quand la légende est plus belle que la réalité, retient la légende. Voilà, c'est la belle histoire.
Oui.
Tout le monde veut y croire, en fait.
Oui.
Et alors, je vais un peu vite parce que ça tourne. Il y a un moment dans le récit qui est quand même frappant. C'est quand Coppi dit, bah oui, j'ai une petite pochette, là. C'est une jambe, enfin, ce sont deux jambes de rechange. Et alors, cette pochette, il ne la porte pas à l'issue de son plein gré, hein, comme Audi Virenque. Lui, il l'assume complètement. C'est une autre époque, hein.
Ouais, enfin, c'est une époque, celle des amphétamines. Donc, on rappelle, hein, c'est une drogue, un médicament qui était en vente libre déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, très utilisé. Chaque pays avait développé le sien pour des raisons militaires. Hein. On sentait qu'il y avait un conflit qui se préparait. Et ce qui va perdurer dans le cyclisme jusque dans les années 70-80 après, parce que c'était beaucoup trop contrôlé. Mais bon, disons que ces amphétamines, Coppi n'en avait pas l'exclusivité. On dit même que Bartali y aurait succombé sur le Tour de France 1950. C'est son directeur technique de l'époque, Alfredo Binda, qui dit il est un petit peu trop énervé. Vous savez, c'est la nervosité est un des symptômes possibles d'utilisation de ces amphétamines. Alors, bon, Coppi, lui, il prenait la bomba. Il prenait la bomba parce que la bombe Coppi devait éclater assez souvent sur piste, sur route. C'est quelqu'un. Et puis, il faisait des rallyes en voiture pour aller d'un endroit à l'autre. Il pouvait courir en critérium en Bretagne, c'est une vraie histoire, hein, et être Clermont-Ferrand le lendemain. Donc, il roulait de nuit, il était fatigué. Et ça a probablement hâté sa mort, hein, mort de la malaria, vous l'avez dit. Mais son corps était épuisé, complètement rincé, parce que les amphétamines vous font tenir sur le moment, mais en réalité, elles vous affaiblissent, elles vous rongent l'intérieur.
Bien sûr, comme toutes les drogues. Votre livre s'appelle Giro, hein,
oui.
Vous êtes intéressé au Tour d'Italie, qu'a-t-il de spécifique? Ce serait donc la course la plus dure du monde?
Oui, ben c'est comme ça que l'ont voulu ces promoteurs d'ailleurs qui ne sont pas des gens de sport, contrairement à ceux du Tour de France. Ce sont des passionnés d'opéra, d'astronomie, de montgolfière, et puis dans le Tour de la Renaissance en 1946.
Hein, Verdi et Galilée à vélo.
Ben ouais, et en 1946, dans le Giro de la Renaissance, ce n'est pas des journalistes qui vont raconter le Giro, ce sont des écrivains, et c'est une différence fondamentale. Vous avez cité Buzzati, par exemple. Eh bien, disons que les organisateurs ont voulu créer du rêve. Par exemple, ils ont fait arriver le Giro dans les arènes de Vérone, ils l'ont fait arriver sur la place Saint-Marc de Venise, via un contre-la-montre qui était tracé à travers les canaux de Venise. Il y a eu l'Etna, il y a eu le Vésuve. Le Giro rencontre la culture de son pays. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il est promu par l'Office du Tourisme National italien. Là où le Tour de France estime être un monument à lui tout seul et ne pas avoir besoin, au fond, pour faire l'équivalent, il aurait dû se terminer au sommet de Montmartre, il n'a fait qu'y passer. Il aurait dû terminer dans les arènes de Nîmes ou au Stade de France. Tout cela, les Italiens, finalement, ont décidé de marier cet extraordinaire pays avec cette extraordinaire course. Et je pense que le pays doit beaucoup à la course et la course doit beaucoup au pays.
Bien, ce sera le mot de la fin. Donc ça s'appelle Giro. La course la plus dure du monde dans le plus beau pays du monde. Au fait, si je vous dis le plus grand cycliste de tous les temps, allez.
Alors justement, ça c'est intéressant. Bon, c'est
à 3 secondes.
Eddie Merckx.
Et moi aussi,
deuxième copie.
Et deuxième copie,
oui.
Après Merckx.
Et Pogacar arrive, attention.
Bon, très bien. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, le duel Bartali-Coppi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mélissa Etroit.